Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité sera Raoul-Marc Génard, docteur en sciences politiques et auteur de Quelle Europe après le nom aux éditions Fayard. Nous sommes le 11 décembre. Après-demain, les chefs de gouvernement vont signer officiellement le traité de Lisbonne, appelé trop souvent et honteusement en France « traité simplifié » à l'initiative frauduleuse de Nicolas Sarkozy. Ce traité, c'est le traité dit constitutionnel, à quelques exceptions près. Traité repoussé par les Français en 2005 par 54,7% des voix. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Valéry Giscard d'Estaing dans une tribune du 26 octobre du Monde, bizarrement passée sous silence par les médias. Valéry Giscard d'Estaing, le père du TCE, y dit « Le texte des articles du traité constitutionnel est donc à peu près inchangé, mais il se trouve dispersé en amendements au traité antérieur, eux-mêmes réaménagés. On est évidemment loin de la simplification. Il suffit de consulter les tables des matières des trois traités pour les mesurer. » Quel est l'intérêt de ces subtiles manœuvres? D'abord et avant tout, d'échapper à la contrainte du recours au référendum grâce à la dispersion des articles et au renoncement au vocabulaire constitutionnel. Ainsi donc, le pouvoir en place veut faire avaliser par les députés eux-mêmes ce que le peuple souverain a repoussé. Un seul moyen existe pour éviter ce déni de démocratie évident, que les parlementaires refusent la réforme constitutionnelle préalable à la ratification de ce traité. C'est possible si l'ensemble des parlementaires socialistes, essentiellement, votent non et refusent de sacrifier la démocratie française à la construction européenne. Les médias français font un silence quasi général sur les initiatives de ceux qui réclament un référendum. Pas d'information, pas d'action. C'est sans doute leur conception de ce que doit faire le quatrième pouvoir. Des sous de son côté, continue sa série d'entretiens sur le sujet. Raoul-Marc Génard était de passage à Paris et je ne voulais pas le rater. Rendez-vous place du Châtelet, au Zimmer, ambiance feutrée de bar chic.
Actuellement, en France, il y a une omerta absolument absolue sur le fait que le traité simplifie finalement et la reprise du traité constitutionnel contre lequel, par exemple, vous êtes battu, va passer par la voie parlementaire. Quelle est, à votre avis, la raison de cette omerta quasi absolue dans tous les domaines, médiatiques et politiques?
Je dirais que ce n'est pas une surprise. On a connu ça pendant la campagne contre le traité constitutionnel européen en 2005. C'est-à-dire une connivence de tout ce qui prétend être la pensée en France pour taire ou dénigrer les arguments de ceux qui s'opposaient à ce TCE. Aujourd'hui, la meilleure façon d'empêcher qu'il y ait un débat dans un pays qui n'arrête pas de donner des leçons de démocratie au monde et qui a une secrétaire d'État aux droits de l'homme, la meilleure façon d'empêcher le débat, c'est de ne pas en parler. Et donc, il y a une volonté politique relayée avec une complaisance scandaleuse par des gens qui osent encore s'appeler des journalistes et par ceux qu'on nous présente comme les grands penseurs que l'on doit vénérer. Il y a une complicité entre tous ces gens-là pour ne pas en parler, parce que en parler, ce serait provoquer un débat dans lequel, si ce débat est authentique, des idées contradictoires seraient en présence et on sortirait peut-être du discours officiel de cette pensée unique massive qui consiste à d'abord à faire croire que c'est le président de la République qui a sauvé l'Europe en remettant les éléments du traité constitutionnel européen dans un traité qui s'appelle un traité modificatif et en faisant croire que ça c'est la panacée. Donc pour qu'on ne puisse pas mettre en doute le discours convenu, la pensée dominante, il n'y a pas de débat. Encore une fois, moi je pense que la France est dans un processus de plus en plus adémocratique. On est dans un véritable déclin, dans une véritable régression de la démocratie.
Mais est-ce que le fait justement que l'on tue d'une certaine façon la démocratie française au nom de la construction européenne n'invalide pas justement cette construction européenne ?
Je ne le pense pas. Je pense que le problème, pour moi d'abord, on ne peut pas dissocier une vision de la France d'une vision de l'Europe. On ne peut pas. L'Europe n'est pas un puzzle dont on pourrait détacher chacune des pièces pour les mettre ailleurs. Par ailleurs, je pense que dans un certain nombre de domaines, on fait mieux les choses ensemble que séparément, et en tout cas, on se protège mieux ensemble que séparément. Donc la question, la question centrale, c'est vraiment celle de la démocratie en France et en Europe. Les griefs les plus importants qu'on peut porter aujourd'hui à la manière dont on construit cette union des peuples d'Europe portent justement sur le recul des pratiques démocratiques au niveau européen. Quand on passe du stade français qui est médiocrement démocratique au stade européen, on passe d'un stade médiocrement démocratique à un stade où la démocratie est quasiment inexistante. Quel est le pouvoir du citoyen en face de la Commission européenne ? En France, on peut encore, on va sans doute le faire dans un certain nombre de cas en mars de l'an prochain, si on n'est pas content de son maire, on peut le changer. Si on n'est pas content de son député, aux législatives, on peut le changer. Et pareil pour le président de la République. Si on n'est pas content de la Commission européenne, on ne peut rien faire. Et aujourd'hui, on est quand même avec une Commission européenne dont un grand nombre de dossiers nous montrent que ce n'est pas l'intérêt général des Européens qu'elle sert, mais plutôt l'intérêt particulier de quelques Européens, c'est-à-dire du monde des affaires et du monde de la banque. Mais le citoyen, lambda, est totalement impuissant devant une Commission européenne qui est en fait à l'origine, et ça personne ne le conteste, de 80 à 85% des lois qui régissent nos vies, qui sont proposées par l'Union européenne, par la Commission, et qui, par un processus de transposition, de transcription, deviennent des lois et des réglementations nationales. Donc le problème central, c'est bien celui d'un défaut majeur de démocratie, et ce n'est peut-être pas un hasard si une médiocre démocratie française génère, avec ses voisins, une très médiocre démocratie européenne.
J'allais avoir une question un peu imbécile. Est-ce que les parlementaires français qui vont avaliser un déni de démocratie en France ignorent le fait que l'Europe est elle-même adémocratique? C'est-à-dire que ce serait une malencontreuse bévue de leur part. Ils sont en train de sacrifier la démocratie française en pensant qu'une autre entité meilleure, plus belle, plus grande et démocratique va se construire ailleurs.
Je ne crois pas qu'ils soient si stupides que ça. Je pense qu'ils sont plutôt complices. Moi, j'ai toujours considéré, c'est le procès d'intention que je fais à la construction européenne telle qu'elle se présente à nous, que c'était pour les libéraux de droite et les libéraux de gauche le moyen de revenir sur 100 ans de conquête démocratique et sociale par le haut, en transférant des matières, des compétences, des attributions vers des institutions qui échappent au contrôle démocratique, on peut remettre en question alors des acquis. Je prends par exemple la notion de service public, qui est quand même un instrument voué à ce que, dans une sorte d'égalité, tout le monde ait accès à un certain nombre de droits collectifs fondamentaux. La santé, l'éducation, par exemple, il y en a encore beaucoup d'autres. Eh bien, aujourd'hui, en ayant conféré à l'Union européenne et aussi à l'Organisation mondiale du commerce une compétence en matière de services, eh bien, on a doté ces institutions qui ne sont soumises à aucun contrôle démocratique. On a conféré à ces institutions la capacité de démanteler les services publics. C'est un exemple parmi d'autres de ce que, effectivement, il y a une espèce de reprise par le haut de ce que les libéraux de droite et de gauche avaient dû concéder par le passé et qui aujourd'hui ils remettent en question.
Aligre FM 93.1.
Des sous et des hommes, on est toujours en compagnie de Raoul Marc Génard dans un petit bar du centre de Paris.
Et encore quelque chose que je ne comprends pas bien. Parce que finalement, je n'arrive pas clairement à comprendre comment des démocrates, et en particulier des démocrates de gauche, peuvent accepter justement cette construction européenne. En particulier, justement, accepter un déni de démocratie. Je pense en particulier aux parlementaires socialistes qui ne vont pas voter non à la réforme constitutionnelle, si ça se trouve.
Mais si on veut faire l'effort de créditer un certain nombre de responsables politiques socialistes de bonne foi, je dis bien si on fait cet effort, on doit reconnaître qu'ils s'inscrivent, eux, dans un processus évolutif. Et donc, ils acceptent d'en rabattre, de renoncer à des exigences démocratiques pour la construction européenne, en disant, sous le prétexte, fallacieux à mes yeux, qu'il faut avancer par étapes. J'en veux pour preuve la déclaration qu'avait faite en 2000 M. Moscovici devant l'Assemblée nationale pour présenter la charte des droits fondamentaux qu'il présentait comme une avancée considérable, alors qu'on sait que cette charte des droits fondamentaux, elle est en retrait, mais en retrait majeur par rapport à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc là, il y a une espèce d'acceptation de, je dirais plutôt une espèce d'abandon de l'exigence démocratique minimale. D'ailleurs, on pourrait dire sous forme de boutade que si on devait coter les institutions européennes au regard des exigences démocratiques, la cote, elle serait très inférieure à 10 sur 20 et de loin. Mais je pense qu'on est en droit de se poser une question beaucoup plus fondamentale. Est-ce que les gens de la gauche institutionnelle, Parti Socialiste, Parti Communiste, LCR, tous ceux qui acceptent de faire fonctionner le système et de ne pas le remettre en question, est-ce que ces gens ont encore des exigences démocratiques? Est-ce que cette démocratie de plus en plus formelle, où le rituel électoral tient lieu de finalité absolue, est-ce que ce rituel-là n'est pas ce qu'ils appellent la démocratie et ils s'en contentent? Si on compare ce qu'on entend aujourd'hui à propos de démocratie avec ce qu'on entendait entre 1789 et 1793 dans les débats de l'Assemblée constituante où l'on pensait la démocratie, on ne peut constater qu'une chose, une régression catastrophique. Les exigences en matière de démocratie aujourd'hui sont bien en retrait par rapport à ce qu'elles étaient il y a 250-300 ans.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je sais que beaucoup de gens ont écrit aux députés, notamment socialistes, mais pas exclusivement socialistes. Il y avait eu une initiative systématique d'interpellation des députés par le site qui s'appelle www.traitésimplifiés.org. Il y a l'initiative de Mélenchon. Rien, absolument rien n'est fait.
Mais la logique des appareils l'emporte sur toute autre considération. Il faut préserver l'appareil. Il faut préserver l'appareil du Parti Socialiste, du Parti Communiste, de la LCR, parce que ça, c'est considéré comme la fin des fins. Je dois dire qu'il y a là-bas une forte empreinte du léninisme qui a enseigné à une gauche, même qui aujourd'hui récuse totalement Lénine, que préserver l'appareil du parti était le devoir premier. C'est devenu en tout cas une grave maladie qui tue pour le moment toute espèce d'espérance, toute espèce de recomposition d'une gauche authentique, c'est-à-dire une gauche qui remettrait comme priorité l'intérêt général, la solidarité, les besoins collectifs, plutôt que exacerber l'individualisme et le chacun pour soi. Alors la question, qu'est-ce qu'on fait, elle est coincée par cette situation, avec en plus une gauche qui est un véritable champ de ruines, qui n'a pas de contenu, qui n'a pas de colonne vertébrale, qui ne propose rien, qui n'est porteuse de plus aucune espérance. La gauche, toute la gauche aujourd'hui, fabrique du désespoir, du désenchantement, peut-être pire encore de l'indifférence. Et pourtant, on ne peut pas se contenter de ce constat. Il faut il faut penser à autre chose que ce qui nous est imposé, à ce que autre chose que ce qu'on subit. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps, qu'on est au début d'une période qui va durer fort, fort longtemps. Peut-être faut-il qu'il y ait un phénomène de génération qui passe pour que le champ politique soit débarrassé de tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à la trahison de 1983, c'est-à-dire le fameux tournant de la rigueur, soutenu par beaucoup de ceux qui sont des responsables de la gauche aujourd'hui, et penser un projet de société pour le 21e siècle, c'est-à-dire un projet de société qui intègre les limites du productivisme, qui intègre la nécessité aujourd'hui d'inverser ce qui fut la quête de l'humanité pendant des siècles, c'est-à-dire dominer la nature. On voit où ça mène au risque de la disparition non seulement de la nature mais de la planète et de ceux qui vivent dessus. Et donc il faut intégrer cette dimension que il faut un nouveau pacte entre les humains et leur cadre de vie et la nature. C'est ça, c'est un projet de société qui est à élaborer, pas seulement pour la France, pas seulement pour l'Europe, pour le monde entier, dont il faut en partager à la fois la nécessité et les objectifs. Et pour moi personnellement, ça ne peut se faire que par un profond, puissant, lent, donc patient travail d'éducation populaire. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas de voie miracle devant l'énorme machine à ne pas penser que les pouvoirs politiques et économiques, les libéraux de gauche, les libéraux de droite, nous infligent. Il y a une réponse, mais c'est une réponse qui n'est pas facile, puisqu'il s'agit d'expliquer et de convaincre dans un environnement où on voudrait que plus personne ne pense, on voudrait simplement des consommateurs. Je suis très frappé que pendant la grève des cheminots, la patronne de la SNCF n'ait plus jamais utilisé le mot « usager » et qu'elle ait parlé de ses clients. C'est très significatif d'une évolution et d'une marchandisation des esprits et de la société. C'est contre ça qu'il faut lutter, mais ça va prendre beaucoup de temps.
Allegre FM 93.1.
Des sous et des hommes, et on est toujours en compagnie de Raoul-Marc Génard, mais il n'avait pas répondu à ma question. Alors finalement, face à ce déni de démocratie, on fait quoi ?
Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au traité modificatif ? Hein ? Moi, je voudrais d'abord exprimer une immense déception, c'est qu'après le référendum de 2005, qui avait mobilisé l'essentiel du peuple de gauche, sans lequel il n'y aurait pas eu ce résultat, sous l'impulsion des appareils des partis, on est revenu à des questions très hexagonales. Alors que je me répète, je pense qu'on ne peut pas penser un projet de société pour la France sans penser un projet de société pour l'Europe. Ce qui d'ailleurs, si on avait continué à placer l'Europe au cœur des préoccupations, on aurait pu sortir un communiqué de victoire qui est passé totalement inaperçu, et plutôt que de se poser en victime, se réjouir que quand même il y a eu un sommet européen où on a adopté le texte que je cite maintenant. Le concept constitutionnel qui consistait à abroger les traités actuels pour les remplacer par un texte unique appelé Constitution est abandonné. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les 27 chefs d'État et de gouvernement lors du Conseil européen de Bruxelles des 21 et 22 juin 2007. Mais pour nous qui avons combattu la constitutionnalisation des traités existants, c'est une formidable victoire. On ne l'a pas souligné, c'est passé inaperçu. On se met plutôt dans des logiques de victimes, alors qu'une dynamique politique doit être plus conquérante, si je peux utiliser ce mot-là. Et donc moi qui me place plutôt dans cette perspective, avec le volontarisme que ça réclame, je continue à caresser l'idée et à penser que une mobilisation contre le traité modificatif qui me semble indispensable à bien des égards pourrait être efficace on était capable de rassembler 1 million de signatures demandant un référendum. Un million, pourquoi? Parce que c'est pour l'organisation d'une pétition dans le traité modificatif, un million pour les 27 pays d'Europe, c'est le niveau qu'il faut atteindre. Un million pour la seule France, ça voudrait dire beaucoup plus. Mais malheureusement, moi je suis bien obligé de constater que des pétitions, il y en a au moins 5 ou 6. Et que même de ce point de vue-là, on n'a pas été capable de n'en faire qu'une qui aurait pu, elle aussi, créer une dynamique. Je crois néanmoins que c'est un objectif qu'il faut continuer à poursuivre parce que c'est le seul, pour le moment, le seul outil qui pourrait être un levier sur un parti socialiste qui possédait une clé majeure, qui aurait pu, conformément à ses promesses électorales, exiger un référendum, ce qu'il a renoncé à faire, montrant à quel point ce parti a perdu, je dirais même toute éthique, parce qu'à quelques mois d'un scrutin où il s'engage à réclamer un référendum, il revient sur sa parole. On finirait par croire qu'il a encore eu beaucoup trop de députés pour que les leçons soient apprises. Mais si un million de Françaises et de Français réclament ce référendum, c'est quelque chose qui ne pourra pas passer inaperçu. Donc, moi, c'est ce que j'ai envie de dire comme chose urgente à faire. Et puis, pour revenir à la conclusion de ma réponse précédente, je crois qu'il faut expliquer encore et toujours et de plus en plus ce qu'est l'Europe, comment elle fonctionne, en quoi cette Europe, dans la manière dont elle est construite, n'est pas acceptable, en quoi elle génère beaucoup plus d'appréhension et de déception que d'espérance, et en quoi et de quelle manière il faut la modifier. Il y a des questions fondamentales qu'on ne pose jamais. Quelle Europe voulons-nous? Et pourquoi faire? Une fois qu'on a répondu à cette question-là, il y en a une autre qui me semble tout aussi pertinente et nécessaire, c'est est-ce que nous voulons tous cette Europe-là? Avec une constance extraordinaire, le peuple britannique, quels que soient les dirigeants qu'il se donne, nous dit, en gros, nous, l'Europe qui nous intéresse, c'est une zone de libre-échange, rien de plus. Et donc, plus elle sera élargie, mieux ça vaudra. Est-ce que c'est celle-là que nous voulons? Mais à partir du moment où on sait quelle Europe nous voulons et où on identifie ceux qui veulent cette Europe-là, se pose alors une série de questions importantes sur avec qui, comment. On n'en est pas là. Et comme on n'en est pas là, on se condamne à faire toujours des compromis qui sont le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire la plus grande médiocrité commune, qui fait qu'aujourd'hui on a une Europe qu'on ne comprend plus, qui ne suscite plus d'espoir, qui nous ment tout le temps. Il suffit de lire tous les textes produits par la Commission européenne pour constater qu'elle n'arrête pas de dire le contraire de ce qui se passe. Et donc, moi, ce dont je suis convaincu, c'est que cette Europe, telle qu'on continue à nous la construire à travers le traité modificatif, c'est une Europe qui va susciter de plus en plus de rejets. Et comme personnellement, je ne pense pas que le repli sur le périmètre national de quelque pays que ce soit pour le bien des peuples, dans un concert des nations où les rapports de force plus que jamais jouent à plein, bien je pense que la manière dont on construit l'Europe aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus dangereux pour les Européens.
Et oui, c'était Des Sous et des Sommes en compagnie de Raoul Marc Génard. Alors Raoul Marc Génard a écrit un livre vraiment fort intéressant qui s'appelle « Quelle Europe après le nom » et qui est publié aux éditions Fayard. Raoul Marc Génard est un vrai Européen, il veut l'Europe, mais vous verrez peut-être pas exactement celle qui nous est donnée actuellement. Je vous rappelle les enjeux. Dans 2 jours, le traité de Lisbonne va être signé. Ensuite, il devra être ratifié par la France. Normalement, cela doit se passer par voie parlementaire. Niant en cela le fait que le peuple a repoussé le même traité en 2005, Il n'est pas trop tard pour agir. Il faut faire une pression maximale, notamment sur les députés socialistes. Écrivez-leur, plusieurs initiatives ont été montées. L'une par le site de Mélenchon, qui s'appelle « Nous voulons un référendum ». Une autre initiative a été montée par le site qui s'appelle « Traité simplifié ». Il faut absolument, absolument mettre la pression. Je vous rappelle que les élections municipales auront lieu en mars 2008. Peut-être faudrait-il faire comprendre définitivement aux socialistes que nous ne saurions voter pour des gens qui méprisent le peuple et la démocratie. Voilà, à la semaine prochaine.